Les rendez-vous de l'UNIS. En partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux-Combalusier. En direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo.
Eh bien, bonsoir, toujours en direct ici, exceptionnellement au pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS. Après cette intervention à la fois des politiques, des grands débats. Et beaucoup de questions qui ont été posées. Ça a duré plus d'une heure et demie. On a la possibilité d'avoir les politiques sur notre plateau pour parler et débriefer justement de ces rencontres. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau David Alphand. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Mais parfaitement bien.
On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Alors David, vous êtes conseiller de Paris, vice-président délégué du groupe Changer Paris. Vous êtes conseiller municipal élu du 16e arrondissement, accompagné de notre rédactrice en chef, Fabienne Lissa. Comment ça va, Fabienne ?
Très bien, Sylvain. Et j'étais vraiment interloquée de cette salle, les regards braqués sur les intervenants, extrêmement intéressants, parce que, effectivement, David Alphand, parmi les autres, a des avis tranchés et il le fait savoir.
Alors, des avis tranchés, bien sûr, sur la question du logement. Alors, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais voilà. Après tout, je suis journaliste, je peux faire un jeu de mots. Le logement, c'est un peu la dent creuse dans Paris, dans les deux sens. Effectivement, c'est l'inquiétude à deux niveaux. Je vous propose de faire de donner votre avis comme ça, carré. Politique du logement insoluble ou soluble dans Paris, avec les difficultés foncières que l'on connaît. Y a-t-il des alternatives ? On sait que c'est une des villes les plus denses au monde, on le sait. Hein. Le député Bournazel nous a dit que la densité de Paris était celle de Mumbai, hein, par exemple, ce qui est quand même pas neutre. On n'a pas cette impression hein, quand on vit dans Paris.
Heureusement, d'ailleurs. Hein.
Ce qui prouve qu'on a... Quoique, on va venir voir un petit des toc-toc comme ça un peu partout. C'est comme ça qu'on appelle les toc-toc. Alors justement, cette question du logement, elle est cruciale. Pourquoi ? Et vous le savez, parce que c'est le premier marqueur social d'intégration. On sait que les postes de décrochage, lorsqu'il y a une dégradation, une pauvreté qui se développe, et de c'est dans le pays en ce moment, c'est pas drôle, les premiers postes de décrochage sont l'énergie, le loyer, on voit bien que l'impact du logement. L'éloignement des populations les éloigne de l'emploi, vous le savez. C'est une vraie difficulté, c'est délétère, ça a une influence sur la santé publique, sur le moral des Français. Et les Franciliens, c'est un miroir sociologique, puisque les Franciliens, si on prend Paris et Île-de-France et 8 départements, c'est 1/5 de la population française. Donc on peut dire qu'on peut prendre le pouls de notre pays en prenant le pouls de l'Île-de-France. Alors on va rester quand même sur Paris, puisque c'est votre vision, mais j'aimerais avoir vous entrant comme politique. Malgré tous ces défis, et ces défis qui sont à mettre en relief, parce qu'on ne peut pas l'éluder cette question, par cette incapacité peut-être institutionnelle à essayer de simplifier les outils pour gérer ce grand Paris, verra-t-on enfin hein, une institution qui fusionnera peut-être avec, à l'échelle de la région, le département, la MGP et autres, pour voir enfin un vrai projet du Grand Paris qui aurait dû naître déjà depuis bien longtemps, David Alphand. J'ouvre un peu le débat.
Oui, légèrement. Vous l'ouvrez légèrement. Ouais, vous avez déjà ouvert beaucoup de portes en réalité. Mais c'est vrai que le point de départ, c'est que de l'extérieur, parce que Paris n'est pas toute la France, mais du reste de la France, on a le sentiment que c'est un peu délirant l'immobilier à Paris.
C'est clair.
Et les questions de logement.
Irrationnel et délirant.
Je rappelais lors de nos échanges ce soir que je suis un provincial d'origine. Comme beaucoup de Parisiens, je suis arrivé pour mes études à Paris.
Moi aussi.
De quelle région alors ?
Lyonnais.
Moi, les Hautes-Alpes, Brion-sur-Cher-Chevalier.
Ah, très bien.
Mais vous pouvez y passiez peut-être vos vacances.
Ouais, ouais. Barre des Écrins, voilà. Ah bah, le Mont Pelvoux et le...
Voilà. Je vous en félicite. Mais alors là-bas, quand on rapporte que le prix moyen au mètre carré, qui est aujourd'hui de 11 300 euros à Paris, eh bien, en famille, dans les Hautes-Alpes, on me regarde, on me dit « mais vous êtes des fous à Paris ». Parce que à des tarifs pareils, on aurait des châteaux. En province. Et c'est vrai que ça remet un peu en perspective les choses. Et que la question des loyers, des prix à Paris, qui ont fortement cru en plus au cours des dernières années, entre 2014 et 2021, on est passé de 8 300 euros à 11 300 euros le mètre carré. Ça doit aussi nous interpeller sur probablement une politique en échec du logement à Paris. Je dois dire également que il n'y a pas que le secteur privé qui est en question. Il y a probablement aussi la question du logement social où on est dans une course.
Et du logement intermédiaire.
Et du logement intermédiaire, bien évidemment.
Crucial, qui a fait fuir d'ailleurs, qui a malheureusement pas été suffisant et a fait partir de notre bonne vieille ville
les
classes moyennes.
Mais bien sûr, parce que maintenant, chaque année, depuis une dizaine d'années, 12 000 familles quittent Paris. Ça interpelle, c'est les classes moyennes qui partent de Paris.
Mais David Alphand, c'est quelque chose que de l'extérieur, on ne voit pas. On se dit Paris, c'est dense, il y a du monde, etc. Paris a perdu 55 000 habitants en 5 ans.
Oui. Et encore, à la rentrée scolaire du mois de septembre, on a perdu 6 000 écoliers. Ce sont des chiffres qui peuvent nous inquiéter parce que c'est une tendance de fond. Et la question qui va se poser à un moment donné, c'est qui peut encore vivre à Paris et est-ce que Paris sera une ville de super riches avec des îlots de super pauvres ? Si je caricature.
À quelques mois de l'élection.
J'adore votre façon
présidentielle.
Alors franchement, ouais. J'adore.
C'était l'un des sujets de cette table ronde. À quelques mois de l'élection présidentielle, à la lumière de ces éléments, quelle politique du logement faut-il spécifiquement pour Paris et la métropole ?
Si on veut lutter, parce que si je vous écoute, mais vous avez mille fois, et j'aime beaucoup cette façon de définir. Une ville de super riches, c'est déjà le cas dans certains quartiers de Paris, il n'y a plus de débat, pour être très clair. Donc c'est gentrification à fond. Moi, la question que je vous pose, David Alphand, est-ce que la gentrification, finalement, c'est pas un processus sociologique irréversible ? À ce moment-là, ça se fera de toute façon, parce que la loi du marché fera que ce sera toujours le cas. Mais... Ou est-ce qu'on peut politiquement avoir une volonté de faire offensif pour que, un, les bailleurs privés retrouvent un minimum de considération, parce qu'on dit jamais assez quand même que les bailleurs représente aujourd'hui, loge les deux tiers de personnes dans le parc privé, qui seraient éligibles au logement social, mais ça, vous le savez déjà.
Oui, bien sûr. Alors, mais est-ce qu'on va inéluctablement vers une gentrification ?
C'est le cas, aujourd'hui.
Le charme de Paris, son identité, c'est sa mixité.
Eh oui, bien sûr. Et
si aujourd'hui Paris est une ville qui présente des atouts touristiques, c'est parce qu'il y a les Parisiens.
Mais bien sûr.
Sans les Parisiens, Paris serait une ville morte.
C'est un musée.
On l'a vu pendant le confinement. C'est beaucoup d'intérêt.
C'est Florence.
Mais voilà.
C'est une ville où on défile et on visite.
Et notre objectif et notre volonté, notre ambition avec Rachida Dati et notre groupe politique au Conseil de Paris, c'est précisément de défendre une vision alternative à ce chemin qui paraît inexorablement suivi sous la municipalité actuelle. Oui, on peut, et on a d'ailleurs des propositions très fortes qui permettraient de changer la donne. En particulier, je vais vous en citer quelques-unes, parce que on n'est pas démunis, et une politique volontariste à Paris, elle est possible. La première proposition que nous mettons sur la table, c'est d'utiliser un outil qui a été créé au mois de juillet 2019 par l'ancienne municipalité, mais qui est toujours avec la même maire, bien évidemment. C'est l'organisme de foncier solidaire.
L'OFS, c'est pas mieux.
L'OFS, voilà.
Qui a diligenté la première expérience de BRS sur les 23 logements qui ont fait couler un encre pas possible.
Absolument.
2784 familles ont postulé sur ce dossier, vous rendez compte ?
Mais bien sûr,
pour 23
logements. Mais parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez raison de le rappeler, pour un de ces logements, on a plus d'une centaine de candidats, ce qui montre bien qu'il y a une demande considérable. Et lorsque Anne Hidalgo avait porté la création de cet organisme, elle s'était engagée à créer près de 800 logements par ce biais-là. Or, aujourd'hui, on en est à quelques dizaines. Et ça fait pourtant déjà 2 ans. Ça fait 2 ans que le mécanisme est en place. Nous souhaitons que ce levier soit amplifié. Et il faut absolument foncer. Il faut accélérer là-dessus. Parce qu'il y a une demande. Et c'est une réponse à la demande des classes moyennes. Imaginez aujourd'hui, dans le 14e arrondissement, le quartier Saint-Vincent-de-Paul, où on a expérimenté le dispositif, des 2 pièces qui ont été acquises pour des montants de l'ordre de 250 000 à 260 000 euros. C'est-à-dire à peu près pour le tarif en prix de marché d'un studio dans le même quartier.
Oui, quasiment 40 à 50 % de moins.
Mais oui, on peut vraiment
travailler à 5 000 euros du mètre carré, ce qui a été la première expérience avec le fameux BRS qui a été lancé, l'expérience des EFS. On peut vraiment le faire. Mais la question, David Alphand, je suis obligé de vous la poser. Il faut du foncier pour ça. il faut du foncier et il faut que politiquement on ait la possibilité de transformer et de faire ce foncier. Est-ce que c'est possible dans un cadre privé de travailler sur du BRS ?
Alors aujourd'hui, on peut avoir des opportunités encore foncières à Paris. Vous aviez parlé de dents creuses. Bon, il en existe encore.
Oui, heureusement, il y en a encore quelques-unes.
Le foncier
et la surélévation, c'est aussi une alternative.
Alors oui, je vais y venir. Il y a encore quelques zones en friche qui sont propriétés de la SNCF, mais qui pourraient, comme on l'a fait sur la ZAC Paris-Rive-Gauche, pourraient être valorisées et être mis à disposition de promoteurs et porter de très beaux projets immobiliers encore aujourd'hui. Nous avons un texte, vous parliez de surélévation, on a un texte qui est très important et qui va être voté par le Conseil de Paris dans les 2 ans qui viennent. On y travaille déjà depuis 1 an, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme. Et ce document d'urbanisme, il est particulièrement important dans les conséquences qu'il va avoir sur la politique du logement à Paris, notamment parce que c'est lui qui détermine ce qu'on appelle le vélum, c'est-à-dire les hauteurs à Paris. Le dernier plan local d'urbanisme remonte à 2006 et on avait déplafonné les hauteurs à Paris à l'époque, puisque c'est une circulaire Guichard de 1973 qui régulait les hauteurs parisiennes et qui les limitait à 37 mètres. Et le maire de Paris, le premier maire de Paris, Jacques Chirac, avait hérité de cette hauteur de 37 mètres sans véritablement la questionner ni la remettre en cause. Et ça n'est qu'en 2006 qu'on a dérogé à cette hauteur de 37 mètres et on en a établi 2 autres références, 50 mètres de hauteur, ça c'est pour des tours d'habitation, et 180 mètres, et ça c'est pour faire du tertiaire. Bon. Les élus parisiens que nous sommes sont appelés demain à décider des nouvelles hauteurs à Paris. C'est un enjeu considérable, parce que vous parliez de foncier, il y a le foncier quand on s'étale, mais il y a aussi l'espace qu'on peut gagner en hauteur.
Voilà, les tours de grande hauteur dont on a beaucoup parlé, et donc la verticalité d'une ville dense. Voilà.
À aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'il n'y a plus aucune boussole dans l'avion d'Anne Hidalgo. Parce que quand on parle de plan local d'urbanisme...
Parler de tours et d'avion, attention, hein, on est en novembre, mais bon, en septembre, mais attention.
J'aime beaucoup le... Oui, je vous écoute.
Vous comprenez pourquoi la salle était carrément debout en l'écoutant.
Mais alors là, vous avez... J'aime beaucoup le...
Et oui, mais parce qu'il faut dire les choses. On parle des tours à Paris. Et là, le premier adjoint d'Anne Hidalgo est capable de vous dire quasiment...
On parle d'Emmanuel Grégoire. Là.
Emmanuel Grégoire est capable de vous dire quasiment à quelques minutes d'écart. Je suis contre les tours dans le prochain PLU. Mais par contre, je vous défends la tour triangle de 180 mètres qui est porte de Versailles. Alors, si vous arrivez à comprendre, bon courage. Et pourtant, il faudra bien sortir de ce dilemme-là.
Il faudra bien en sortir, mais David Alphand, justement. Mais vous êtes un homme politique. Alors, on va faire un peu de politique. Anne Hidalgo a été réélue.
Oui, bien sûr, elle a été réélue. Mais je ne pense pas que ça soit particulièrement sur sa politique de logement. Puisque même...
Oui, mais elle a été réélue. Alors qu'on a une sacrée galère de logement dans Paris. Alors, je prends Paris comme Île-de-France, mais vous connaissez bien le sujet. Vous avez peut-être raison, mais voilà.
Alors, oui, elle a été réélue et pour autant, elle n'a pas toutes les cartes en main en Paris et elle ne peut pas faire n'importe quoi. Je vais vous donner un ou deux exemples qui vont vous le démontrer. Parce que, en fait, Anne Hidalgo est en situation de grande fragilité politique au sein du Conseil de Paris. Avec notre groupe, emmené par Rachida Dati, nous sommes les plus nombreux au Conseil de Paris. Et nous sommes plus nombreux que le groupe socialiste d'Anne Hidalgo. Il se trouve qu'elle ne parvient à dégager une majorité qu'avec l'appui, le soutien des écolos à Paris.
Mais oui.
Mais sur les questions d'urbanisme et d'environnement, elle est souvent en désaccord avec eux. Et il se trouve que les écolos sont plutôt en accord avec nous sur, et ça va peut-être vous étonner, que la droite reçoive le soutien des écolos à Paris, mais
arriver.
Pourtant c'est le cas, et si bien que le projet de bétonisation du côté de la gare d'Austerlitz, il y a 2 mois, eh bien, il a été rejeté par le Conseil de Paris parce
Très juste.
Parce qu'on l'a empêché.
Vous avez du pouvoir.
Oui, on a un certain pouvoir.
C'est surtout les écolos qui vous ont suivi sur cette question.
Mais exactement. Mais
absolument. Un jeu d'alliance. Vous parlez d'Anne Hidalgo élue, mais elle brigue aujourd'hui dans un poste dans la campagne présidentielle. Quelle politique de logement pour le quinquennat? Qu'est-ce qui est urgent face à tous ces problèmes? Que recommandez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Et surtout, d'abord, la première des choses, je souhaite qu'elle ne soit pas élue. Parce que si c'est pour transposer la politique d'Anne Hidalgo à Paris à l'échelle de la France...
Il faut qu'on vous invite plus souvent.
Là, je pense qu'on va avoir un exode généralisé. Hein.
Excusez-moi, Madame Hidalgo.
Plus sérieusement...
Ça faillite.
On a des dispositions qui doivent être mises en place et nous proposons, y compris pour une prochaine mandature, une prochaine législature, avec un nouveau président de la République, nous l'espérons, d'abord de mettre un terme à de mauvaises pratiques budgétaires qui tournent autour de la question du logement à Paris. Notamment ce que vos éditeurs ont peut-être déjà entendu, c'est-à-dire la pratique des loyers capitalisés. C'est une supercherie plus d'Anne Hidalgo qui ponctionne 500 millions d'euros sur les bailleurs sociaux pour venir se faire de l'argent de poche et combler les trous de son budget à Paris. Je vous rappelle au passage, le budget à Paris, on a 8 milliards d'euros de dettes. Et elle ne trouve
alors que légalement, me semble-t-il, les mairies n'ont pas le droit de présenter de budget en déficit.
Hein, mais bien sûr,
elle semble.
Mais précisément pour ne pas présenter de budget en déficit, elle est contrainte de prélever 500 millions d'euros en 2022.
Ils vont pas l'accepter, ça, les bailleurs sociaux.
Sur les bailleurs sociaux. Et bien, actuellement, la balle est dans le camp du gouvernement. Et c'est M. Macron et M. Castex qui vont finalement trancher. Et cette pratique est une pratique dérogatoire.
Oui,
aucune autre commune en France ne se voit accorder une même disposition. Eh bien, depuis 2006, Paris en bénéficie. À l'époque, c'est M. Hollande qui avait fait cette concession à Anne Hidalgo. On pouvait le comprendre, il y avait une certaine proximité politique. Mais malheureusement, cette dérogation, elle a été poursuivie chaque année par le gouvernement soutenu d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, de Jean Castex. Et à aujourd'hui, on est en train d'attendre. On a eu le débat budgétaire la semaine dernière en Conseil de Paris. Par 10 fois, et je ne vous mens pas, par 10 fois, nous avons posé la question à Anne Hidalgo et à son adjoint aux finances. Avez-vous obtenu l'autorisation pour percevoir de manière dérogatoire en 2022 les loyers capitalisés? Ils sont incapables de nous répondre. Pour l'instant, la balle est dans le camp de l'exécutif au niveau national.
Est-ce que l'exécutif va suivre à votre avis pour préserver la paix parisienne?
Alors Rachida Dati, je peux vous dire que
si ça se boucle pas, vous connaissez les conséquences que ça peut avoir.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que Rachida Dati a fait un courrier au ministre concerné pour attirer une nouvelle fois leur attention. Et d'ailleurs, elle va même plus loin puisqu'elle demande la mise sous tutelle budgétaire de la ville de Paris.
Waouh.
Britney Spears est sortie de la tutelle, mais Anne Hidalgo pourrait y aller, vous voulez dire.
Mais on peut effectivement en sourire, mais en réalité, c'est un sujet excessivement sérieux parce que ça obère les marges de manœuvre, y compris en matière de construction de logements à Paris.
Mais bien sûr, parce que c'est ce que précédemment, sur ce plateau, disait Pierre-Yves Bournazel. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur tout, d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, mais au moins sur les sujets de la complexité, vous avez un point d'accroche. C'est que vous avez cette vision assez pragmatique de la difficulté. Vous savez bien, David Alphand, qu'aujourd'hui, on est à deux doigts d'un choc social lié au logement. Et on le voit et on le sent. Nous, on le sent chez Radio Immo. Pourquoi? Parce qu'on fait 3 villes par semaine et qu'on est capable de prendre le pouls physiquement des villes. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la folie des prix parisiens est une réalité. Vous savez qu'il y a des territoires dans notre pays où le coût de construction est supérieur au prix du foncier. Ce qui est quand même fou quand on y réfléchit. Donc à un moment donné, ça devient complètement surréaliste. J'ai une dernière question à vous poser, parce qu'on a un timing hyper serré. C'est, on a cette chance d'avoir un débat présidentiel qui va poser vraiment les éléments clés de cette politique du logement. Il faut rendre justice à Lionel Jospin, qui avait, avant effectivement le choc du 21 avril 2002, dit que la question du logement devait être une question quasi-constitutionnelle, quasi-nationale, et il avait même été jusqu'à parler de ce qu'on appelle la garantie universelle du logement. Pour être très simple, le droit pour un pays démocratique comme le nôtre, une république comme le nôtre, de loger dignement et décemment tous ses administrés, tous les Français. C'est possible, ça ?
Ce que vous évoquez là, c'est la question du droit au logement, d'une manière très large.
Mais c'est vrai qu'il faudra un jour traiter profondément.
Oui,
d'accord.
Et puis ça touche à l'intime des Français, qui sont attachés, par exemple, à la propriété, à se constituer un patrimoine immobilier qu'ils puissent transmettre à leurs enfants. Et puis, vous parliez aussi des prix, des montants. Mais aujourd'hui, moi, je regardais un petit peu dans le budget d'un ménage. Aujourd'hui, c'est 22%. 22% qu'on consacre à son logement. C'est la première dépense. La première dépense des Français. Donc c'est excessivement important. C'est un enjeu majeur pour notre pays. Et il est heureux d'ailleurs que beaucoup de candidats se soient déjà saisis du sujet. Nos candidats, les Républicains, ont déjà mis des propositions sur la table, aussi bien en matière de logement social, de comment utiliser l'argent public comme levier de construction de nouveaux logements. Et comment réhabiliter l'ancien. Bref, je pense que c'est vraiment un sujet présidentiel et les Français se détermineront, y compris à partir de ce sujet-là, qui est un des premiers dans leur ordre de préoccupation.
Très juste. Merci beaucoup. On était ravis.
Je précise que nous invitons bien sûr les représentants de la gauche à s'exprimer sur ces sujets et qu'à la table ronde, je crois que l'adjoint du logement n'était pas présent, ce qui explique pourquoi nous avons côté LR aujourd'hui.
Yann Brossat avait été invité, hein, vous le savez, à participer à cette table ronde. Il a malheureusement eu un empêchement, mais on aura l'occasion. Je me permettrai d'ailleurs, David Alphand, de vous réinviter dans le plateau Ruré au mur à venir vous parler. Alors, c'est sûr que vous avez une façon de présenter les choses qui est très... Alors, je peux vous dire, vous êtes ce qu'on appelle un très bon client, hein, à la radio. C'est au moins le mérite de cristalliser les choses et de poser le vrai débat. Je rappelle, David Alphand, que vous êtes conseiller de Paris, vice-président délégué du groupe Changer Paris, conseiller municipal du 16e arrondissement. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau.
Merci
à vous.
Pour cet entretien. Merci beaucoup.
Merci. Les rendez-vous de l'UNIS. En partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux Combaluzier. En direct du pavillon Dauphine sur Radio Immo.